Les cours du Collège de France.
Bien, aujourd'hui, je vais parler de la théorie des invariants pour le schéma des commutants. Je rappelle que dans le cours précédent, on avait expliqué le théorème de Luna-Richardson qui donne un outil très efficace pour déterminer l'anneau des invariants. Tout, pratiquement comme dans le cas de l'action adjointe, si M est un cas schéma irréductible, réduit et normal, peut-être sous l'hypothèse caractéristique de K égale à 0. Et si G est un groupe réductif agissant sur M, alors on peut déterminer l'anneau des invariants. Donc ça, c'est un anneau de type fini, un K algèbre de type fini. C'est un général de Hindberg, Mumford et compagnie. Et ensuite, on peut le décrire par une forme de généralisation du théorème de restriction de Chevalley, donc qui est dû à Luna et Richardson. Il y a toute une théorie qui, à partir d'une action très générale d'un groupe réductif, sur un schéma réduit et normal, ils construisent un ouvert principal où les stabilisateurs appartiennent tous à une classe conjugaison de sous-groupes réductifs de G, et on prend le point fixe sous l'un de ces sous-groupes, et on obtiendra une forme qui est très proche du théorème Chevalley, qui est un calcul très affectif dans beaucoup de cas. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas où M n'est pas réduit et normal, où on ne sait pas s'il est réduit et normal, et on cherche quand même à déterminer les anneaux invariants, parce que c'est une des motivations réelles qui vient de comprendre la fibre de Hitchin pour les variétés supérieures. Je vais expliquer. Donc, aujourd'hui, on va chercher à comprendre le M, qui est le schéma des commutants, qui n'est certainement pas réductible, et probablement pas réduit. Donc, dans ce cadre, le théorème de Luna-Richardson ne s'applique pas, mais on aimerait bien quand même déterminer l'anneau des invariants un peu sous la même forme, prédite par le théorème de Restrictions de Chevalley. Donc, soit j'ai un groupe réductif sur un corps K, donc ici, on va se restreindre à ce cas, c'est déjà compliqué. Plus tard, on aimerait bien passer aux caractéristiques positives, mais comme on ne comprend pas encore complètement le cas caractéristique 0, donc il faut mieux de se concentrer dans ce cas d'abord. Et donc, soit j'ai une l'algèbre de Lie de G, et M et D est un entier naturel. Donc M, ce sera le sous-schéma de D uplé dans l'algèbre de Lie, des éléments qui commutent. Donc ce sera θ1, θd, dans G de D, donc θi, θj, il y en a 0. Donc ici, on définit comme un schéma, donc c'est un espace affine, donc ces équations dans les équations, et puis donc on quotiente l'anneau coordonné par l'idéal engendré par ces équations. Donc, a priori, l'anneau quotient n'a aucune raison d'être réduit. On a l'axiome de G, j'ai pas axiome diagonale. Donc il faut faire l'action adjoint sur chacune des variables. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce schéma? Il a bien sûr un ouvert qui est très joli. C'est l'ouvert des régulés semi-simples. Donc θ1, θd. Donc M, tel que θi sont régulés semi-simples. On met les aussi bonnes que possible. Dans ce cas-là, on voit bien que c'est des matrices semi-simples qui sont commutants, donc sont simultanément diagonalisables. Donc, on peut les mettre tous dans un carton. Donc, alors pour D, il y en a deux. On sait que MRS est dense dans M. Ça, c'est un résultat de Richardson. Et donc, ça implique en particulier que M est irréductible. Mais même dans ce cas des grains 2, on ne sait pas. Malgré beaucoup de tentatives, souvent infructueuses, on ne sait pas si M est réduit. Même dans ce cas des grains 2. Alors pour D est plus grand ou égal à 3, des exemples, des constructions, par exemple, de schéma d'Hindberg, de Yarubino, qui n'étudie pas strictement parler de schéma de commutant, mais schéma de Hindberg qui est très proche. Le schéma de Hindberg. Des sous-schémas de dimension 0 dans A3. Donc 3, c'est le nombre 3 ici. Ça montre que M n'est pas irréductible. Donc il y a des composantes où les matrices sont toutes nipotentes, par exemple. Donc, ce qui fait que cet ouvert, qui est très joli, qui est lisse, qui a toutes les bonnes propriétés qu'on veut, a une composante très faible sur M, parce qu'il, même son adhérence ne fait qu'une des composantes, il y a d'autres composantes. Et on n'a aucune idée que comment les autres composantes se comportent. Quand n'est pas équidimensionnel. C'est des dimensions même bizarroïdes, il n'y a pas de. Mais avec Chen, on fait cette conjecture que même si le M est très moche, l'invariant doit être très bonne. Donc ici, bien sûr, ce qui remplace le Borel, ça va être le. On a. Si T est de carton, on a le T de D s'injecte dans M, parce que les matrices dans le carton se commutent, et donc ça induit. Donc les fonctions G invariantes sur M deviennent W invariantes sur T puissance D, ça donne un morphisme de restriction de chevalet, disons. Donc ça c'est. Alors avec Chen, on pense que ça induit comme un isomorphisme. L'homomorphisme. De restriction de chevalet de KMG dans KTD W est un isomorphisme. Alors pourquoi on pense que c'est vrai? Enfin d'abord, il y a un autre théorème de Richardson. Richardson c'est un vrai héros dans toutes ces histoires de théorie invariant. Il y a des évidences C'est un théorème de Richardson qui étudie l'action diagonale de G sur G puissance D, donc sans aucune hypothèse de commutation. Et il dit que l'orbite de θ1, θd est fermée si les θi, 1 θd, engendrent une sous-algèbre si et seulement si une sous-algèbre solutif. Les orbites fermées sont engendrent un sous-algèbre. Donc ça, c'est un théorème très important. En fait, il était utilisé, par exemple, dans les travaux de Vincent Lafogue. Et il utilise ce résultat de Procesi, de Richardson. Et donc, ça, donc les orbites fermées la puissance de GD sont des uplets qui engendrent un sous-algèbre réductif. Et dans le sous-schéma des uplets commutatifs, c'est pareil, c'est fermé si seulement si ils engendrent un sous-algèbre réductif commutatif, mais puisqu'ils sont commutants, ça veut dire qu'ils sont tous dans un carton. Donc ce qui implique que les orbites fermées de G dans le schéma de commutant rencontrent toutes T puissance D. Encore un jeu de mots clos. Donc on a bien ce morphisme avec certainement bijection au niveau des points. Donc c'est le nombre des points, donc ça a un bon chance d'être, du moins qu'on enlève tous les nipotents, ça devient un isomorphisme. Et un autre problème vraiment de se battre avec les nipotents éventuels. Ici il n'y a pas de nipotents, ça c'est un schéma normal. Mais il n'y a pas de nipotent dans l'invariant. Donc c'est ça, c'est un peu notre problématique. Ensuite, en fait, le théorème est connu, on a beaucoup de cas. Le cas de conjecture est connu dans le cas G égale GLN. Donc c'est dû à Vaccarino. Et qui se repose sur un théorème de Procesi. Et sans le savoir, nous l'avons un peu redémontré, ce théorème, dans le cas GLN. Et c'est vrai aussi pour dans le cas S de groupe symplectique, où là, c'était un résultat nouveau de Chen et moi, Sao-Shien Chen. Et ensuite, il y avait des techniques un peu similaires aux nôtres, mais bien plus compliquées, et c'est possible pour le groupe orthogonal. Et des résultats de 100. Sans s'y a un sou. Enfin, en fait, je pense qu'on est assez proche d'avoir la démonstration de cas général, mais ça reste encore un peu mouvant, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais je suis quasiment certain que la conjecture est vraie. Oui, oui. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment un isomorphisme. Donc, voilà. Et là, maintenant, je commence à expliquer pourquoi on veut ce théorème, sur ces conjectures. Donc, la motivation, ça vient de l'étude du fibré de la fibration de Hitchin en dimension supérieure. Alors, un fibré donc soit x. Un cas schéma propre et lisse de dimension D Alors là, on confirme un film de Hitchin pour dans ce cadre-là, qui fournit en fait une science géométrique très jolie, qui éventuellement, je pense, permet de comprendre la géométrie de variété X elle-même. Mais de quoi il s'agit? Donc, un fibré de X dans le cas GLN, de X de rang N sur X consiste à un couple E et θ, où E est un fibré vectoriel de rang N sur X, et θ est un champ de X, donc c'est une. Ça ressemble à une dérivation, disons si c'est V. Donc c'est un morphisme OX linéaire, le V dans oméga 1 de X, OX linéaire, qui est intégrable. Donc ça ressemble beaucoup à une connexion, donc, mais sauf que ce n'est pas cas linéaire, mais bon, c'est OX linéaire. Et puis il faut écrire ce que ça veut dire l'intégrabilité. Alors, c'est l'intégrabilité qui nous raccrochera au schéma du commutant. Donc l'intégrabilité, si, de façon la plus simple d'écrire l'intégrabilité, c'est de décrire θ comme une axiome des champs de vecteurs sur V. Donc ça devient le fibré tangent de X dans les endomorphismes de V. Donc, c'est pareil, c'est OX linéaire. Et intégrabilité dit que si X exprime deux champs de vecteurs sur X localement, défini localement, alors le crochet de X' ira à zéro. Donc les champs de vecteurs, une fois réalisés comme des endomorphismes sur le fibre vectoriel, doivent se commuter. Donc à partir de cela, il est facile de reformuler la notion de champ de X en termes des morphismes à valeur dans un champ. Alors le champ, ce sera pour un G arbitraire, un groupe réductif. Et donc M, le schéma de D commutant, D éléments commutants dans G, donc qui pourrait voir comme une θ, peut être voir comme une application de VD, donc c'est l'espace vectoriel type de dimension D dans G. Une application linéaire commutante. Application linéaire et commutante. Donc ça c'est M. Donc la base envoie dans θ1, θ2, θd. On demande que les images de vecteurs arbitraires se commutent comme endomorphisme, comme élément d'algèbre de Lie. Alors sur M, on a deux actions. On a l'action de G, parce que G agit sur l'algèbre de Lie par adjointe, mais on a aussi l'action de GND qui agit sur la source. Donc on a une action sur ce champ, et dans un champ de X, dans un G champ de X, sur X, sur cette variété dimension D, ce sera un morphisme, qui est un morphisme de X vers le quotient champêtre de M fois G fois GND, tel que si on envoie sur le classifiant de GND, eh bien on trouve le cotangent. Qui sera tout le cotangent. C'est la fibre de cotangent. Donc on relève la flèche de X vers BGND définie par le fibre cotangent dans ce champ quotient. C'était tout comme dans le cas une dimension, donc ici ce serait GM, ça c'est la fibre canonique de, d'une courbe. Et donc, en quelque sorte, vous voyez, localement, cette partie GND ne joue pas un rôle, donc on oubliera. Donc, sur pour la géométrie globale, donc là, ce sera important d'en tenir compte. Et le morphisme de Hitchin, donc Simpson, a défini le morphisme de Hitchin. Donc dans ce cadre, au moins pour que j'ai un GLN, donc il définit la façon suivante. Donc si vous avez V, si vous avez θ, qui va de V, donc V tenseur oméga. En fait, sa définition est valide sans supposer que ce soit commutant, mais il restreint les commutants. Alors il prend, comme dans le cas de dimension 1, il va prendre la puissance extérieure. On va prendre lambda i de θ. Donc ça va dans le morphisme de lambda i de V, dans lui-même, mais c'est des matrices avec des coefficients dans simi de oméga 1 de x. Donc on réfléchit un peu pourquoi le simi ici sort, c'est le simi, mais c'est on va voir pourquoi aussi, mais en tout cas ici, si on a la trace, on a donc la trace de lambda i de θ, ce sera une forme différenciée symétrique. Et donc, on a si M est les. On a un morphisme de M vers. Donc, ça c'est l'H, le morphisme de Hitchin, ça c'est le champ de module des fibres de X vers un espace vectoriel. A à D, de 1 à N. Donc, c'est des formes de différenciées symétriques, des puissances symétriques de oméga 1. Donc, pour l'instant, si je ne me trompe pas, il y a très peu de gens qui ont étudié cet objet. D'abord, il faut comprendre ce que sont des différences symétriques, qui est une grosse histoire. On ne comprend pas vraiment cet espace. Il n'est pas stable pour les formations. Donc, ça, c'est un problème. Mais en tout cas, je pense que c'est bon d'étudier. Les formes disons, extérieures, ça fait partie du cohomogène de Ram. Donc, c'est stable par les formations. Mais les simies sont plus dur. Mais enfin, il y a l'entrée qui, on va se rendre compte tout de suite que si on appelle ça B, donc une grosse différence de base avec le cas de dimension 1, c'est que ce morphisme est vraiment très loin d'être subjectif. Donc H n'est pas subjectif dans la plupart des cas. Et en fait, il y a une image qui ça va être un sous-schéma de B qui n'est pas linéaire, donc il va se factoriser. Comme ça. Donc ça, c'est une inversion fermée. Et dans le meilleur des cas, le morphisme de M vers A, ça ressemble plus au cas de dimension 1. Donc ça, ça ressemble à ça de fibrillation abélienne. Donc le morphisme de M vers A va être, bon, au moins on s'attend à ce qu'il ressemble pas mal au cas de dimension 1, donc génériquement, c'est une variété abélienne à peu près, et avec des générations. Mais le A va être un fermé assez compliqué de B. Donc on cherche d'abord à déterminer ce que c'est ce A. Donc le A, ça nous donne pour nous par la théorie des invariants. Donc en fait, on a ceci, on a le. Comme d'habitude, on prend ce quotient champé de M sur G. On va. L'objet qu'on va étudier, c'est ce quotient invariant de M sur G, ce qu'on appelle souvent A. Et ça, ça va donc B. Donc B, ça va être un vectoriel. Donc A, c'est le quotient qu'il est. Et puis on va définir cette sorte de plongement de B, de A, dans un espace affine B. Et tout ça, ça munit l'axiome de GND. Donc GND, et puis un J là-dessus. Et le diagramme, donc le diagramme de M vers A, B sont déduits par torsion par le cotangent. Donc on met tout ça au-dessus de X, on va le tordre, là, tout le monde par le cotangent, et on étudie l'espace de section. Et voilà. Donc maintenant je vais vous décrire ce que c'est A et B. Et ça, c'est le morphisme de A vers B, ici, c'est vraiment classique, en fait. C'est assez dur à lire, mais si vous lisez le livre de Hermann Weyl, ce qu'il appelle la polarisation. Nous ne s'adressons plus tellement à la polarisation, comme son temps en géométrie algébrique moderne, mais dans ce temps-là, il appelle ça la polarisation. Alors, rappelons ce que c'est la polarisation de Weyl. Donc, de nouveau ici, on s'embête pas avec le problème, avec la condition commutante. On prend des vecteurs dans G de D. Donc, ça revient à une application linéaire de l'espace vectoriel type VD dans G. Et donc, pour chaque fois, on a par le terme restriction de Chevalet, la vraie, on a l'anneau des invariants, des fonctions sur l'algèbre de Lie, sur les invariants par G, sont engendrés par les polynômes invariants homogènes, donc Fi invariant et homogène de degré Ni, peut-être Mi, Ni, peut-être Mi. Et donc, si vous composez, donc si on va à V de D, dans G, composé avec Fi dans A1, vous avez donc Fi composé avec θ, ça vous fait une application algébrique, donc un morphisme homogène, donc algébrique, morphisme algébrique, qui est homogène de degré Mi. Et donc ça définit donc Fi, donc c'est un polynôme homogène de degré Mi, donc Fi de θ est un point dans sim Mi de VD étoile, du dual. Donc ça nous donne des... Donc M, c'est le schéma commutant dans G de D, et ça nous donne, avec ce processus que pour certaines raisons, on va appeler polarisation, ça nous donne un morphisme vers le produit de I à N de sim Mi de V dual. Donc c'est KD, mais bon, c'est mieux se rappeler que c'est l'effet dual, c'est plus ça. Donc, en tout cas, ça se compose. Donc, ça nous donne un morphisme de MG vers là-dessus. Donc, il faut bien se souvenir qu'ici, on n'utilise pas du tout la condition commutante. Ça définit bêtement sur les matrices sans cette condition-là. Et c'est un théorème du Weyl. Je pense. Enfin, c'est essentiellement un vai, mais... Donc ça c'est A, donc ça c'est B. Donc le morphisme de polarisation de A dans B est fini. Et il induit un homéo universel de A sur son image. En fait, ici, vaut mieux que je prends plutôt le truc de TD. Divisé par W qui s'envoie à donc le résultat de Weil proprement dit ça parle de ce morphisme là plutôt que ceci, mais quand on pensait que de toute façon c'est de celui de l'isomorphisme, donc c'est pareil, mais il vaut mieux penser que c'est plutôt ce morphisme composé dont Weil parle. Donc ça c'est vraiment Weil, mais c'est équivalent puisque la conjecture est que TD sur W doit être égal à A. Et c'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme de A sur son image. Dans le cas où G est égal à GLN, SP symplectique. Et ce n'est pas un isomorphisme. Lorsque pour SO de Z, ça c'est un calcul dû à Wallach. De nouveau, Wallach, tous ces calculs se font par le morphisme TD sur W vers B, et non pas par ce. Non pas ça vers ce A. Ce A est resté mystérieux. Donc tout le calcul classique, ça concerne le morphisme là. Et donc là, il y a la bonne référence, un article de Hunziker. Il rappelait tout un peu toute cette histoire. Donc enfin, en fait, il y a l'une des tentatives aussi, c'est d'essayer d'utiliser ce morphisme là, pour démontrer que ceci est un isomorphisme. Mais bon, c'est... Ça met toujours le même problème, que A n'est pas conduit a priori, que A est réduit. Mais le calcul de Wallach ici montre en fait que l'image dans B n'est pas normale. Alors que ce truc-là, il est normal, donc ça ne peut pas être un isomorphisme. Donc il y a une normalisation, une petite normalisation. Pas grand-chose, mais voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais discuter maintenant de la preuve du théorème dans les cas où il est connu. Donc je vais discuter de la démonstration de la conjecture dans le cas GLN. Ou SP de Zn. Donc c'est le bon cas que ce morphisme de dimension fermée, mais on ne va pas utiliser ce théorème-là, en fait. Le cas SO de Zn, avec le cas SO par Song Siasu, semble être un peu le même. La technique, mais c'est quatre fois plus compliqué, mais je n'ai pas eu le temps de relire la preuve. Voilà. Donc, donc, rappelons un peu la situation. On a M dans le schéma de commutant qui est vraiment moche, qui a plein de composantes irréductibles. Il y a des scènes qu'on ne veut pas, mais en fait, on pense qu'une fois qu'on prend les invariants, il disparaît. Et puis on a la restriction de Chevalley qui va de T de puissance D dans M sur G. Et on voit qu'il y a un isomorphisme. En fait, le tout, c'est en fait le construire. La question, c'est vraiment comment construire le. Comment construire a priori un morphisme dans le sens inverse. Vous voyez, même dans le cas d'Irène A, en fait, ce n'est pas clair comment construire morphisme de G sur TW. On a ce morphisme parce qu'on sait que la restriction de Chevalley est un isomorphisme, donc l'inverse. Mais il n'y a pas une construction, enfin, il n'y a pas connu de construction de G. Il n'y a pas une construction jolie, on ne fait pas encore. Pas de construction a priori. Même de ce truc de base, de G sur TW. On a, en revanche, on a le morphisme de G sur TW. C'est le morphisme de Sternberg. Donc là c'est plus bateau, on prend les représentations et puis on prend la trace. Donc ça donne ce morphisme. Donc on voit que l'anneau des invariants de W sur T, quand j'ai ce symbole connexe, est tangenté par les traces, par les représentations. Et ça donne ce morphisme. Mais ici, au niveau de l'algèbre de Lie, ce n'est pas clair. Donc je vais expliquer pourquoi en fait, il y a une façon de le faire, mais j'ai pas encore, tout n'est pas encore ficelé. Donc pour être. On a pensé pour Chevalley, et S ici, donc ça c'est ce qu'on veut, pour le morphisme spectral. Donc, quand on prend le spectre, c'est vraiment le nombre des points, on prend les valeurs propres, les opérateurs, et les mettre ensemble. Pas plus que ça, mais il faut savoir construire. Tant que on veut que le. Tant que si on compose, on a des identités ici. Et. Je veux dire, en fait, ça suffit, en fait. Donc, le fait, il suffit. De construire. Une inverse à droite de C. S de M sur G vers TDW, tant que S composé avec C et identité sur TDW. Alors pourquoi c'est un théorème, vraiment un théorème important de Procesi. En fait, avant de l'énoncer, j'ai dit que si on a ce morphisme, ça implique d'abord en prenant l'image inverse, on a dans le cas de M sur G et le cas TDW, ça c'est la question de Chevalley. Donc ça c'est le morphisme spectral qu'on aimerait construire. Et on sait que la composition est l'identité. Donc ça implique d'abord que S étoile ici est injectif. Donc il suffit de démontrer qu'il est surjectif. Et on démontre qu'il est surjectif parce qu'on sait qu'on sait les générateurs de ce bidule. Donc ça alors. Donc on peut alors démontrer aussi que S étoile est surjectif. En utilisant un théorème de Procesi. Je vais rappeler ce théorème. Alors Procesi s'occupe uniquement du cas GLN, mais on peut souvent s'y ramener. Donc G et GNL. En fait, il ne part même pas de schéma commutant, il ne part que le. Donc, on prend le. Donc G, c'est la G des matrices. Alors, il dit que l'anneau des invariants de G à la puissance D, invariant sous la somme le diagonale, est engendré par les fonctions de la forme, la trace de xi1, xi2, xim, ou i1, i2, im, d'une suite arbitraire dans 1, 2 et 2. Donc ça peut se répéter. Donc, en fait, ça, c'est des traces de monomes. De monomes non commutatifs. On prend les monomes non commutatifs et on prend la trace. Et il nous dit que ces fonctions engendrent l'ingèbre des fonctions invariantes sur les uplets de matrices. Mais en fait, ça, quand on restreint au commutant, c'est bien beaucoup plus joli. Donc ça implique que le Km de G est engendré par la trace des monocommutatifs. Donc les traces de XAMA, XDMD. Donc une fois que, en supposant que ces variables se commutent, donc on peut le. Il suffit de penser ces monomes. Et en fait, il y a un travail à faire, il faut voir les monomes commutatifs ici, sans voir ces monomes commutatifs ici. Pour s'assurer que c'est surjectif. Mais c'est faisable. Donc. Pardon ?
Tu faisais une distinction entre la
diode et la. Ah ben je dis que pour un groupe simplement connexe, tu as un constant évident de G vers T sur W, le constant de Sternberg. Donc tu dis que dans l'anneau de son double invariant sous le tore est engendré par les fonctions de Schur S lambda. Donc ça, si tu l'assumes, et tu peux réaliser l'envoi S lambda sur la trace de la présentation de plus haut point V lambda. Donc tu as un morphisme. C'est Sternberg qui construit ce morphisme à la main, enfin, en prenant les représentations. Donc il y a une construction par les représentations de ce morphisme. En quelque sorte, Tanaki. Mais il n'y en a pas pour ça. Enfin, il faut réfléchir plus pour trouver un pour ça. Ici, l'argument usuel, c'est dit qu'en fait, la réaction de Chevalet était un isomorphisme, et on l'inverse. Et on n'a pas a priori les isomorphismes. Tu peux, mais je pense que c'est vraiment compliqué.
Et juste si je fais le polynôme caractéristique du crochet.
Pour le polynôme caractéristique du crochet. Je vais expliquer ce qu'il faut faire après. Mais je vais expliquer maintenant. La façon de construire même en général, ce qu'on espère, c'est pas tout à fait fait, mais vous voyez que quand on a x un tétan, un élément dans la jette de lit, eh bien, on a son exponentielle. Vous voyez ce que c'est. Donc, exponentielle, ce sera donc le tétan, ce sera un homomorphisme de un point de G à valeur dans, donc disons, à valeur dans R, ça veut dire à valeur dans R, le crochet X. Ça s'envoie, donc, le, c'est l'application usuelle exponentielle de θ, il y en a 1 plus x au carré sur 2, etc. Et ça fait pas un point dans R, mais ça fait bien un point dans la série formelle. Donc, une algèbre de Lie, donc ici, la première remarque, c'est qu'un algèbre de Lie est équivalent à un homomorphisme de groupe. De groupe formel de G1 chapeau dans G. Donc il y a le premier vecteur tangent et un peu les autres. Et donc ce qui est donc le, ici on exploite vraiment la commutation, donc M. Un nuplé de x1, xd, dans g, tel que xi, xj, il y en a 1. C'est la même chose, homomorphisme formel de g1, chapeau à la puissance d, dans g. Donc, chaque fois qu'il y a un champ de vecteurs, vous pouvez le prolonger, ça fait un champ de vecteurs invariant. Et donc, c'est un peu comme le théorème de Picard, ça vous fait les flots. Et le fait que ça commute, en fait, ça fait un morphisme de G à puissance dans R. Mais ce n'est pas, à G, ce n'est pas bien défini, parce qu'il y a une convergence, mais c'est bien défini formellement. Donc, ça fait un. On va écrire ce que c'est, mais je crois que c'est. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est le fait de base. Et donc, pour construire des fonctions. Une invariante sur G, donc on a le. Vous voyez, comme si vous avez des fonctions invariantes sur M, on prend l'exponentielle. Donc si on a. Un point θ dans M de R, à valeur dans n'importe quel anneau, eh bien ça vous fait exponentielle de θ, qui va être, du point de vue d'algèbre, c'est simplement un homomorphisme de l'algèbre de fonction sur G, le groupe dans R crochet X1. Donc c'est un homomorphisme d'un algèbre op. Et donc cela, on utilise un fond caractéristique 0 parce qu'on a divisible pas beaucoup de factoriels. Et donc si on a si F un élément dans KG, on a exponentielle de θ de F, ça va être une somme des sur les M ici c'est D, pardon MD dans N, donc N ça comprend 0 de en quelque sorte c'est même c'est F de θ1 D1 M1. Il faut écrire excuse-moi, je n'ai pas trouvé la bonne notation, mais vous écrivez comme série formelle. Donc ça, c'est des éléments de R. Donc à partir d'une seule fonction invariante sur G, vous avez toute une suite de fonctions invariantes sur MD, et celle-ci engendre. Et ces fonctions engendrent. Vous prenez R, l'anneau K de M, pour C'est exactement, en fait, c'est ça mon conseil d'une autre façon de voir une note de poésie. Quand vous, quand on prend le F, la fonction trace, c'est vraiment la trace de x1d1 xmdm. C'est une notation, c'est juste un coefficient de cette série formée. Je ne sais pas comment noter ça. Mais c'est le même. On peut diviser par des m1. Ici, c'est m1, md, divisé par m1, md. Et c'est ce qui est supposé d'être la trace de x1, de θ1, m1, θd, md. Mais écrit de cette façon, ça a un sens pour n'importe quelle coupe. Et on remplace par trace par n'importe quelle fonction. Simplement, on écrit dans ces séries et prend les coefficients. Et je dis que... en faisant ça, j'obtiens un ensemble de générateurs de cet ingep M, de cet ingep de fonction M. Comment ?
Tout en caractéristique
0. Tout en caractéristique 0, oui. Je divise par beaucoup d'exponents, par beaucoup de factoriels. Oui. Donc, bon, maintenant je vous. Donc, j'ai expliqué qu'on a. On a ce morphisme, le reste au chevalet qui est évident, et on a une sorte d'ensemble générateur de ceci et cela. Fallait quand même comme ça s'applique à T ou à GD, et il suffit de construire un morphisme qui est bien foutu, donc qui ensemble envoie générateur sur générateur, et on aura une subjectivité. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Donc, dans le cas de GNLN, on va discuter maintenant cas par cas de ma construction de S, ma construction dans le cas de GNLN, la construction de lignes. Il y a une construction de lignes qui est enfouie dans SGRK, qui n'avait rien à voir avec ça, mais il utilise cette construction. Donc, on part de θ, je prends R à K, mais en fait ça s'applique à n'importe quel anneau. Donc c'est vraiment important de prendre sur n'importe quel compte parce qu'on va s'occuper d'impotents. Mais je prends quand même, pour simplifier la vie, je prends le Vd à K puissance D dans GLN. Donc une application commutante. Donc ça, c'est le... C'est un point de M et je dois associer sa donnée spectrale, donc un point de cela. Et comment on fait? Eh bien, la ligne prend les cimes de θ qui va dans l'ingep de polynôme, le cime de Vd dans GNLN. En lisant la multiplication de matrices. Parce que mes matrices sont bien commutantes, ça fait bien une application au morphisme d'ingèbre, d'ingèbre de polynômes vers l'ingèbre des matrices. Et ensuite, il prend le déterminant. De 1-1. Donc ça fait donc le déterminant de S de θ. Ça va faire une application SVD dans 1-1. C'est une application algébrique, un morphisme. Donc ça, ce n'est pas une dimension finie, mais on voit comme une réunion des vectoriels de dimension finie. C'est une application algébrique. Algébrique homogène de degré n. Parce que les terminants aussi tiennent un degré n. Et il est linéaire. Et donc, par principe général, chaque fois qu'on a une application algébrique, homogène de degré n, ce n'est qu'un point d'ensemble dual. Et donc ça fait Ça fait, c'est équivalent à un morphisme de S. C'est équivalent à donner un morphisme de V et de D. C'est un morphisme linéaire. C'est un linéaire sur une forme linéaire sur le produit symétrique. Donc les tensors symétriques. C'est vraiment le tensor symétrique. Ici, c'est parti, ça marche en caractéristique P en fait. Mais il ne faut pas prendre le quotient, il faut prendre le sous. C'est vraiment le tensor symétrique. Donc les points fixes de sigma n dans ce machin. Il n'y a pas un. Donc vous pouvez mettre R si vous voulez. Et c'est ça qui donne le. C'est ça le spectre, le S de θ. Et en fait, plus que le déterminant. Donc après, ça c'est K linéaire. Mais plus que le déterminant est multiplicatif, en fait, le S θ ici est un homomorphisme d'algèbre. Et donc, ça vous fait un K-point de. Ça vous fait un K-point de. Ça donne un K-point de T la puissance n divisé par W ici, c'est Sn. Donc, ça fait un morphisme. Ça fait un morphisme. De N mod G de T de mod W qui est un inverse à droite de l'axiome de Chevalet. Donc c'est une courbe un peu étonnante de Lin. Il utilise le fait que l'algèbre de Lin est la multiplication et qu'il est déterminant. Et donc ça résout vraiment le cas de GLN. Mais on voit bien que c'est un peu difficile de généraliser. En général, on n'a pas. Qu'est-ce que c'est la multiplication dans G ? On n'en a pas. Et en plus, le truc le plus dur, ici, c'est ce genre de construction, ça fait que le groupe symétrique. Ici, il y a comme une coïncidence que le groupe de Weiss est le même groupe symétrique. Donc, pas ces tensors symétriques. Alors, comment fait-on pour d'autres groupes ? Donc, il y a le cas SP2N. Donc, c'est en fait des tentatives pour que ça marche aussi, un peu plus compliqué, mais c'est en quelque sorte c'est une comment étendre un peu cette construction étonnante de Lin en d'autres cas. Donc, je vous explique un peu le point essentiel donc SP2N, c'est en fait on, à un moment donné il faut utiliser le Pfaffian. La norme pfaffienne. Au lieu du déterminant. Nous récipient cette construction d'algèbre linéaire un peu rigolote, mais comme en fait c'est pas si facile que ça, c'est-à-dire ça dépend vraiment de être vraiment astucieux. Alors, comment on fait ça ? Donc, recommençons un peu l'algèbre linéaire. On a V égale V2N, c'est espace vectoriel de dimension 2N. Il faut que j'appelle ce que comment on fait le Pfaffian. Donc, on a toujours ce home de V dans V du Han. Donc, ça, c'est une forme bilinéaire sur V. Donc, ça, c'est. V du Han tensor avec lui-même. Donc ça fait S2 de V du Han plus lambda 2 de V du Han, partie des formes symétriques et des formes antisymétriques. Et on a une application de mu de lambda 2 de V du Han vers lambda 2n de V du Han en prenant la puissance n. Donc on a oméga 1, on prend mu de oméga 1, donc on s'envoie dans le Sn de lambda 2 et ça me voit dans lambda 2 de L. Et la forme mu est nombre dégénéré, sigma 6, donc ça c'est une droite, sigma 6 ce vecteur est non nul. Et pour, en quoi ceci est une. Ça c'est une façon de voir la faffienne. C'est bien la racine carrée déterminant, parce que si vous voyez, vous avez mu dans lambda 2 de V étoile, donc mu ça peut se voir comme une application de V, donc V dual. Donc si vous prenez le transposé, vous obtenez moins de mu, alors le det de mu, ça va être un truc de lambda 2n de V dans lambda 2n de V dual. Donc det de mu est un vecteur dans lambda 2n de V tenseur avec lui-même. Et il n'y a pas trop de choix, mais c'est det mu, c'est le det de oméga, c'est mu de oméga au carré. Donc c'est ce que dit que le faffienne est une racine carrée déterminant. Alors, comment on va raccrocher à un autre petit problème, c'est qu'on a, si maintenant on fixe une forme symplétique non dégénérée, internée non dégénérée. Donc on a l'ingèbre de l'IG, le double symplétique va être les éléments X dans les endomorphismes de V, tels que XUV, tels que oméga de XUV, égale moins oméga de UXV. Et donc, de sorte que. Vous voyez que donc X dans G s'envoie dans X oméga 0 égale oméga 0 X, ça va être dans S2 de V dual. Donc, en quelque sorte, l'algèbre de Lie du groupe symplétique est essentiellement des espaces des matrices symétriques. Mais donc, faut mieux prendre les précautions avec les V et les V du 1 pour ne pas se tromper. Et ensuite, mais vous voyez que si X et Y, on a X au carré, en tant que matrice, il n'est pas dans G, bien sûr, c'est pas stable par multiplication, mais il va être dans G plus. Qui est donc le X dans endomorphisme de V, donc oméga de XUV égale à plus oméga 0 de UXV. Et donc, avec cette application, ce G+, ça va être la même chose que lambda 2 de V dual. Et c'est là-dessus qu'on a la faffienne. Donc si on a maintenant θ1, θ d, dans G, on aura donc le commutant à l'intérieur de l'endomorphisme de V. Donc ces matrices commutant. On aura donc un S θ qui va de S de l'ingèbre d'un polynôme dans en de V. Mais avec la condition de graduation, donc on a Si de θ, ça va être en SI de VD dans G, si I est pair, est impair. Mais si SI de V, ça va être dans G plus, si I est pair. Donc en fait, de ce point de vue de construction de ligne, le G plus est plus sympathique. C'est une multiplication. Et donc, on a un homomorphisme de S plus qui va de direct somme directe de S2N VD, N dans N, dans G plus. Et avec la faffienne, j'aurai une application dans A1 qui est homogène de degré n. Donc le coup, c'est en fait d'appliquer le même truc, le même histoire de ligne à ce fascien. Mais il y a encore un point qui est à résoudre, c'est en quoi la fascienne est multiplicative. Le déterminant il est multiplicatif, mais la fascienne n'est pas forcément multiplicative. Parce que G plus, en fait, on a x, y dans G plus. Alors, il n'est pas sûr x, y dans G plus. Une bêtise, mais alors implique x, y dans G plus si une commute. Donc là, ici, il y a un petit lemme, en fait, qui est pour l'exercice, que si x, y dans G plus, et si x, y égale à 0, si une commute, alors la fascienne donc implique x, y aussi dans G plus, de x, y égale à fascienne de x et fascienne de y. Alors c'est pas vaste étonnant parce que le carré est déterminant, le carré il est bien multiplicatif, mais de comment passer à la racine carrée. Donc là il y a toute une histoire, il faut en fait passer l'espace de l'AC. En fait il y a au point de x, l'application ici sur carré peut être mauvaise, mais quand on trouve 1 plus epsilon x, on va vers 1, il y a un morphisme de carré va être étal, où on peut extraire facilement la racine carrée. Donc la vraie géométrie a démontré ce petit lemme. Eh bien, donc, une fois qu'on a ce lemme, on peut vraiment reprendre les arguments et ça donne le. On a d'abord la partie paire, et puis la partie impair, c'est le plus ou moins 1 dans le groupe de Vad SP2N. Mais c'est quand même vraiment un peu de bricolage ici, mais on voit bien qu'il y a un truc non trivial. C'est vraiment le truc non trivial, c'est de démontrer ce petit lemme. Pas pour les. Bien sûr, c'est facile pour les matrices à valeur dans un corps, mais le plus dur, c'est lorsqu'on a valeur dans un impotent. Alors on perd un peu les pieds. Parce que dans les corps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut triangulariser. Alors, tout ce truc est facile une fois qu'on a triangularisé. Mais sur les nipotents, on ne peut pas être angularisé. Donc le tout, c'est un peu de comment de reprendre ces arguments dans un langage un peu plus performant pour que tous ces petits arguments puissent s'impliquer là-dedans. Donc là, il n'y a pas de démonstration, mais je pense que ça devrait marcher comme ceci. Vous voyez qu'on a la construction, chaque fois qu'on a un θ dans M, donc une paire commutant θ1, θ2, θi, θj, eh bien on a un exponentiel de θ qui est un multi-arc en fait. Donc c'est une application du complété formel la puissance d dans g. C'est vraiment un point de l'espace d'AP appliqué des fois à G. Et en fait, donc on a un morphisme, de M, qui lui est un schéma de Tiffini, un peu dégueulasse, la preuve à l'impotent, des composantes bizarres, mais il s'envoie de toute façon dans un truc qui n'est pas le Tiffini, mais qui est joli, c'est l'espace des arcs de G. En faisant chaque fois des champs de vecteurs commutants, on prend l'exponentiel. Et donc, on l'associe. Et quand on a vu la construction de théorème de Pochesi, ce n'est rien d'autre que de regarder l'application de ceci vers le ND de G mod G. Et on a le même, on a l'application de ND de T vers là-dessus. Donc ça on voit dans. Et ici on a le T puissance D. Ça on voit là-dedans. Et donc T DW si on va sur MDT, sur W. Voilà. Et donc ça on va comme ça, donc ça commute. Donc on a toutes ces constructions, par exemple topologie, on sait que la composition de M dans ce machin-là et que TD sont des dimensions fermées. Parce qu'on avait des fonctions ici, on l'engendre, toutes les fonctions dans ce commutant. Donc ce qu'il faut les montrer, en fait, c'est que on a deux sous-schémas fermés de l'espace d'arc T sur W et ils ont le même point. Il faut les montrer qu'ils sont égaux. Et donc il n'y a que pour un input temps, parce que c'est le pire que le. Donc ça c'est a priori plus gros parce que ça factorise, mais il faut les montrer que l'idéal impotent éventuel est nul. Et ça c'est le type de cet argument de triangularisation ici. J'ai pas encore tout fini, mais je pense que c'est la bonne formulation pour une démonstration générale. Voilà, merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.